Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du vendredi 20 septembre 2024. Voici le sommaire. La première campagne de vaccination contre le Mpox en Afrique a débuté au Rwanda, sans cibler les travailleurs transfrontaliers, le personnel médical et d'autres groupes à haut risque. Au Cameroun, une personne a été tuée et 6 autres blessés jeudi dans un attentat à la bombe artisanale dans le nord-ouest anglophone, en proie à un conflit séparatiste. Le chef du Hezbollah reconnaît que son mouvement a subi un coup sévère après les explosions meurtrières d'appareils de transmission. Il prévient qu'Israël va recevoir ce qu'il appelle un terrible châtiment. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrive aux États-Unis la semaine prochaine. Il rencontrera Kamala Harris et Donald Trump pour consolider l'axe Washington-Kiev. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et les sports présentés par Yakuba Ouidraogo. Mais pour commencer, voici le journal. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies d'Afrique a annoncé que des centaines de vaccins contre le virus Mpox ont été administrés depuis mardi au Rwanda. C'est dans le cadre d'une campagne d'immunisation de l'Union africaine sur le continent. Nathalie Barge.
Au Rwanda, plus de 300 personnes ont été vaccinées, a indiqué le Centre de contrôle et de prévention des maladies d'Afrique. Ces vaccinations ont eu lieu dans 7 districts à la frontière avec la République démocratique du Congo, a précisé le chef du bureau exécutif de l'agence Ngachi Ngongo lors d'une conférence de presse. En République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie, les vaccinations débuteront la première semaine d'octobre, selon le directeur de l'Africa CDC, Jean Kaseya. 200 000 doses de vaccins ont été livrées à la République démocratique du Congo par l'Union européenne et 50 000 par les États-Unis. L'agence sanitaire africaine a recensé 29 152 cas détectés sur le continent, 6 105 cas confirmés et 738 décès dans 15 pays africains. L'apparition du variant Clade 1B a poussé l'OMS à déclencher mi-août son plus haut degré d'alerte mondiale.
Au Cameroun, une personne a été tuée jeudi dans un attentat à la bombe artisanale dans un marché de Bamenda, plus grande ville du nord-ouest anglophone, en proie à un conflit séparatiste. Selon les autorités locales, 6 autres personnes, dont un nourrisson, ont été blessées. Aux environs de 11h, heure locale, un engin explosif improvisé a été actionné par des terroristes armés, embusqués au niveau du marché mobile Nkwen, relate un communiqué de la préfecture de Bamenda. Toutes ces victimes de sexe féminin s'approvisionnait dans le dit espace commercial, détaille le communiqué qui ne désigne pas de possible auteur présumé. Depuis fin 2016, un conflit meurtrier oppose des groupes armés indépendantistes aux forces de sécurité dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, chaque camp étant régulièrement accusé de crimes contre les civils par les ONG internationales et l'ONU. Toujours au Cameroun, le patronat s'inquiète de la migration massive des travailleurs qualifiés du pays. Plusieurs centaines de milliers de départs ont été enregistrés ces deux dernières décennies. Rosine Mounezero.
De janvier à avril 2024, près de 6 000 Camerounais ont immigré au Canada, confirmant une tendance exacerbée portant à plusieurs centaines de milliers de personnes le nombre de Camerounais ayant choisi de s'exiler vers ce pays et d'autres depuis près de deux décennies, a déclaré Célestin Tawamba, le président du syndicat patronal camerounais GECAM. En 2020, le Cameroun a perdu environ 23 000 professionnels qualifiés, soit 2,2% de sa population active qualifiée, selon un récent rapport du ministère camerounais de l'économie. Ce rapport affirme que ce phénomène prive l'économie camerounaise de précieuses ressources humaines. Le patron du GECAM a indiqué mercredi que le syndicat patronal a écrit au ministère en charge des Affaires étrangères pour discuter des mesures potentielles pour atténuer les effets de la migration des travailleurs camerounais. Au-delà des mouvements internes sur le continent africain, le nombre de migrants africains vivant en dehors de la région a plus que doublé depuis 1990. Près de 6 jeunes Africains sur 10 pensent à quitter leur pays dans les 3 ans, la recherche d'emploi arrivant en tête de leur motivation.
En Sierra Leone, au moins 15 personnes, dont 5 enfants de moins de 5 ans, sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel et commercial de 7 étages dans la capitale Freetown lundi, indique un nouveau bilan de l'Agence de gestion des catastrophes. 8 personnes, dont 2 garçons de moins de 5 ans, ont été tirées vivantes des décombres et sont hospitalisées. Les recherches d'éventuels survivants se poursuivent, dit l'agence. Un précédent bilan daté de mercredi faisait état de 12 morts. Le président Julos Mada Bio a promis une enquête approfondie et assuré que l'État ferait tout pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise dans le pays. Plus de 150 personnes font l'objet de poursuites de la justice marocaine pour incitation à l'immigration clandestine, quelques jours après la mise en échec d'une large tentative de franchir la frontière avec l'enclave espagnole de Ceuta, a indiqué jeudi un porte-parole du gouvernement. Dans le cadre de la lutte contre les appels à immigrer clandestinement, 152 personnes ont été entendues par un juge, a-t-il ajouté, précisant que toutes les tentatives de passage avaient échoué. Dimanche, environ 3000 personnes ont tenté d'entrer illégalement à Ceuta après des appels sur les réseaux sociaux, a indiqué Mustapha Bettas, le porte-parole du gouvernement. Malheureusement, certains jeunes sont incités à immigrer par des inconnus sur les réseaux sociaux, a-t-il déploré lors d'une conférence de presse.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a reconnu hier jeudi que sa formation avait subi un coup sévère et sans précédent dans l'histoire du Liban. Sa sortie survenait après des explosions meurtrières d'appareils de transmission du mouvement qu'il a imputé à Israël. Michel Joseph.
Des beepers et talkie-walkies utilisés par le Hezbollah ont explosé à travers le Liban mardi et mercredi. Cette attaque sans précédent a fait 37 morts et près de 3000 blessés. Hassan Nasrallah a affirmé que le Hezbollah avait ouvert une enquête interne sur ces explosions qu'Israël n'a pas revendiquées. Il a accusé Israël d'avoir franchi toutes les lignes rouges, qualifiant ces attaques de massacres pouvant constituer un acte de guerre ou même une déclaration de guerre. Hassan Nasrallah a aussi prévenu qu'Israël allait recevoir un terrible châtiment et une juste rétribution là où il s'y attend et là où il ne s'y attend pas. Mais le chef du Hezbollah a assuré qu'il ne donnerait aucun détail sur le timing, le lieu ou la nature de la riposte que prépare sa formation. Il a par ailleurs assuré que son mouvement continuerait à attaquer Israël depuis le Liban jusqu'à la fin de l'agression dans la bande de Gaza. Les affrontements transfrontaliers meurtriers ont provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes de chaque côté et font craindre depuis des mois un embrasement régional.
L'armée israélienne a indiqué jeudi soir avoir mené de nouveaux raids aériens au Liban contre des systèmes lance-roquettes du Hezbollah, prêts à être utilisés immédiatement pour tirer sur le territoire israélien. Depuis cet après-midi, l'armée de l'air a frappé environ 100 lanceurs et d'autres infrastructures terroristes, représentant environ 1000 canons, selon un communiqué de l'armée israélienne qui assure de sa détermination à continuer, je cite, de démolir les infrastructures et les capacités du Hezbollah pour défendre l'État d'Israël. Toujours par rapport à ce conflit, le président américain Joe Biden pense qu'une résolution diplomatique entre Israël et le Hezbollah est faisable, a déclaré jeudi la porte-parole de la Maison-Blanche. Bien sûr, le conflit le long de la ligne bleue qui sépare le Liban et Israël dure depuis trop longtemps, a souligné Karine Jean-Pierre. Une résolution diplomatique est la meilleure option, a-t-elle poursuivi, ajoutant M. Biden que cela est faisable. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontrera Joe Biden et Kamala Harris la semaine prochaine et prévoit aussi de voir Donald Trump lors de sa visite aux États-Unis. Son séjour vise à consolider le soutien de Washington à l'Ukraine avant l'élection présidentielle cruciale de novembre. Nani Talani.
Selon la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky tiendra des entretiens séparés le 26 septembre avec le président Biden et la vice-présidente Kamala Harris, également candidate démocrate, face à Trump à la présidentielle. Joe Biden et Kamala Harris réaffirmeront leur engagement indéfectible à soutenir l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle l'emporte dans cette guerre, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Pendant sa visite, je réaffirmerai l'engagement de l'Amérique à soutenir l'Ukraine dans sa défense de la liberté et de l'indépendance, a affirmé Joe Biden. Zelensky a promis de partager un plan de victoire avec les dirigeants américains pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Le président ukrainien prévoit de rencontrer le 45e président des États-Unis, Donald Trump, qui est aussi le candidat républicain au scrutin présidentiel. Il n'y a pas eu de confirmation immédiate de la part de l'entourage de Donald Trump.
Le Parlement européen a adopté jeudi une résolution reconnaissant le candidat de l'opposition vénézuélienne Edmundo González Urrutia comme le président légitime du pays après que l'actuel président Nicolas Maduro a été déclaré vainqueur. Ce vote, qui n'est pas contraignant et ne reflète pas la position des pays de l'Union européenne, a eu lieu après que les parlementaires de centre-droit se sont associés à un nouveau groupe d'extrême droite, une manœuvre dénoncée par la gauche. Les parlementaires qui ont adopté la résolution par 309 voix pour contre 201 contre ont également exhorté le bloc des 27 nations à imposer des sanctions à l'encontre de M. Maduro et son cercle rapproché. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
Au Cameroun, le patronat s'inquiète de la migration massive des travailleurs qualifiés avec plus de 6000 départs au cours des deux dernières décennies, principalement vers le Canada. Ce phénomène qui entraîne l'exode des talents prive l'économie camerounaise de ressources humaines précieuses, ce qui a des conséquences négatives sur sa croissance, selon un rapport du ministère camerounais de l'économie. La reprise économique de l'Ouganda se renforce grâce à une faible inflation, une production agricole favorable et une activité soutenue dans les secteurs industriels et des services, estime le FMI. Le début prévu de la production pétrolière à la fin de 2025 devrait encore stimuler la croissance et améliorer les équilibres budgétaires et extérieurs à moyen terme. Pour terminer, l'économie du Ghana a enregistré une croissance de 6,9% au deuxième trimestre 2024, soit le taux le plus rapide en 5 ans, soutenu par l'expansion de plusieurs secteurs clés, a déclaré l'Agence nationale des statistiques. L'industrie globale a cru de 9,3% grâce à l'exploitation minière, tandis que l'or a connu une hausse de 23,6%. Les services ont augmenté de 5,8% et l'agriculture de 5,4%.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Salut Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Les matchs retour du deuxième tour préliminaire des compétitions africaines de clubs commencent ce vendredi.
Oui, un seul match en Ligue des Champions ce vendredi. Vainqueur 1-0 à l'aller à Bamako, les Burkinabés de l'AS Douane se déplacent en Algérie pour y affronter le CRB Louisdad. En Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako affronte Pennsville du Nigeria. À l'aller, le stade avait perdu au Libéria 1-0. Un score qui met mal à l'aise Mamoutou Kané Dimourlé, coach du stade malien de Bamako.
Très, très capital pour le stade et très, 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 très capital pour moi, Mourlé, qui suis entraîneur aujourd'hui. Je suis dans une situation qui ne m'est jamais arrivée, qui n'est jamais passée. Donc, c'est une pression pour moi, supplémentaire. Mais je n'ai jamais douté de ce que j'ai fait. J'ai tout le temps fait confiance à ce que j'ai fait et j'ai tout le temps passé. Et je crois également, avec cette équipe, je crois que j'ai une chance. Ce ne serait pas facile, ce ne serait pas du tout facile, mais je peux avoir une chance pour passer cette tour, Inch'Allah.
L'état d'esprit des joueurs,
bien sûr, l'état d'esprit, ça va, il n'y a pas assez de stress. Mais le stress, c'est au niveau de l'encadrement, au niveau de moi. Je dis, c'est ce stress que les joueurs, j'ai déjà essayé de déjà dégager au niveau des joueurs pour qu'ils s'assoient sur moi. Pour que s'ils sont à l'aise, il n'y a pas de problème, Inch'Allah.
La victoire sera blanche.
Inch'Allah, on est là pour ça, et ça va être blanche. Ce qui m'a trop emmerdé, parce qu'on n'a pas pu marquer avec tout ce qu'on a fait, c'est pas, il ne s'agit pas de jouer au ballon. À un moment donné, ce n'est pas de jouer au ballon, c'est de gagner le match. Jouer le match et gagner un match, ça fait deux. Moi, je veux qu'on gagne le match et non de jouer le match. C'est ça ma façon de faire, c'est ça ma philosophie. Je pense que les joueurs vont comprendre et les supporters vont comprendre.
Mamoutou Kané Dimourlé était au micro de notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré. Toujours ce soir en Coupe de la Confédération, victorieux 1-0 en déplacement, les Amalek du Caire reçoivent Police FC du Kenya au stade international du Caire. La mission s'annonce compliquée pour les Béninois de Dadier FC, battus 2-0 chez eux et qui vont défier les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Les pays d'Afrique centrale peaufinent leur stratégie de lutte contre la criminalité transfrontalière et transnationale. Les 8 pays membres du comité des chefs de police de la région sont réunis à Yaoundé au Cameroun pour discuter de la situation et des mesures à prendre pour faire face à ces menaces. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Les pays de l'Afrique centrale font face à de nombreux défis sécuritaires avec des ramifications au-delà de leurs frontières. Une situation qui interpelle le comité des chefs de police d'Afrique centrale, dont la RDC est l'un des 8 pays membres. De Gaulle, Matangi, Bolo, Dego, Kasseba espèrent Interpol en RDC.
Pour résoudre le problème de la sécurité, il faut des solutions holistiques. Il ne faut pas qu'il y ait des zones qui soient sécurisées et d'autres qui ne le sont pas. Voilà pourquoi, bien que la RDC ne soit pas membre de la CEMAC, nous faisons partie du CCPAC et nous coopérons avec tous les pays membres du CCPAC dans le but de lutter efficacement contre la criminalité transnationale et la criminalité transfrontalière.
En avril de cette année, grâce à la coopération et l'entraide des services de police de l'Afrique centrale, 2 Camerounais en fuite ont été interpellés au Cameroun après avoir commis un forfait au Congo. Lieutenant-colonel de police du Gabon, Esaïe Ovono Eyi Mezui, secrétaire permanent du comité des chefs de police d'Afrique centrale.
Il s'agissait d'un enlèvement d'une jeune fille et avec demande de rançon. Vous savez que nous avons déjà pris en compte cette nouvelle forme de criminalité en émergence en Afrique centrale, en zone CEMAC, depuis la dernière session sécuritaire. C'est une nouvelle forme de criminalité que nous avons inscrite à l'ordre du jour et pour laquelle il faut que les dirigeants prennent des décisions.
Le trafic de drogue et les crimes transnationaux menacent la paix en Afrique centrale. Martin Barganguélé, délégué général à la Sûreté nationale du Cameroun.
Le comité de chefs de police de l'Afrique centrale s'est réuni chaque année. Et cette fois-ci, comme cela a été dit tout à l'heure, nous n'avons plus eu de réunion depuis 2020 en présentiel à cause de la COVID-19. Maintenant, nous sommes dans un environnement très très difficile et compliqué. Nous devons nous concerter pour tracer la voie à suivre afin de faire face à tous ces défis qui nous interpellent. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement.
Mais certains dossiers traînent au sein de ce comité des chefs de police, à l'instar de la création de la brigade mixte en zone CEMAC, ou encore la finalisation du volet sécurisation des frontières afin de faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Lieutenant-colonel de police, Esaïe Ovono Eyi Mezui, secrétaire permanent du comité des chefs de police d'Afrique centrale.
Aucun pays au monde ne peut lutter seul contre la criminalité transfrontalière. Il faut s'associer. Il faut que les services de police de nos différents États collaborent entre eux pour être efficaces. Nous devons mettre en place une carte d'identité CEMAC. Nous devons mettre en place différents titres de séjour de la CEMAC afin que nous puissions véritablement vivre notre rêve qui est de voir l'émergence d'une CEMAC des peuples. Et c'est possible.
Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les 3 candidats au poste de secrétaire général du Commonwealth soutiennent tous fermement que la Grande-Bretagne et d'autres puissances coloniales doivent payer des réparations à leurs anciennes colonies pour les atrocités commises dans le passé, notamment la traite des esclaves. Henry Ridgewell nous en dit plus depuis Londres. Le récit est de Yacouba Ouédraogo.
Le Commonwealth est né des cendres de l'Empire britannique après la Seconde Guerre mondiale. La grande majorité de ses 56 membres sont d'anciennes colonies britanniques. L'organisation doit choisir un nouveau secrétaire général lors de la réunion des chefs de gouvernement qui se tiendra à Samoa le mois prochain. Lors d'un récent événement organisé à la Chatham House de Londres, il a été demandé aux trois candidats à ce poste, tous originaires d'Afrique, s'ils étaient favorables à l'idée que la Grande-Bretagne verse à ses anciennes colonies des réparations pour la traite transatlantique des esclaves et d'autres atrocités commises dans le passé. Tous les trois ont répondu par l'affirmative. Shirley Botchway est la ministre des Affaires étrangères du Ghana et candidate au poste de secrétaire général du Commonwealth.
Les réparations financières sont une bonne chose. Cependant, la conversation s'oriente maintenant vers d'autres réparations en nature. Dans un cas comme dans l'autre, c'est très bien, mais je suis pour les réparations. La question de savoir si le Commonwealth a un rôle à jouer dépendra des chefs de gouvernement.
Joshua Setipa est un candidat du Lesotho.
Le Commonwealth a un rôle à jouer parce qu'il s'agit d'une question qui concerne plus de la moitié de ses membres.
Mamadou Tangara, ministre des Affaires étrangères de la Gambie et candidat au poste de secrétaire général du Commonwealth.
C'est une cause noble qui doit être défendue par les États membres.
Lors du dernier sommet du Commonwealth qui s'est tenu au Rwanda en 2022, le prince britannique de l'époque, aujourd'hui le roi Charles, a fait part de son profond chagrin à propos de la traite des esclaves. Mais la Grande-Bretagne a rejeté toute forme de réparation. On ne peut plus l'ignorer, affirme Kingsley Abbott, directeur de l'Institut d'études du Commonwealth à l'Université de Londres.
Les réparations ne se limitent pas à une compensation monétaire en vertu du droit international. Elles peuvent prendre de nombreuses formes telles que la restitution, la compensation, la réhabilitation et la satisfaction, des excuses significatives, la reconnaissance publique, la commémoration et d'autres choses de ce genre. Il s'agit donc d'une conversation essentielle et permanente qui, je pense, restera une priorité de l'agenda international. Le Commonwealth a donc naturellement un rôle à jouer.
L'ancien premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que, je cite, « Essayer de décortiquer notre histoire n'est pas la bonne façon d'aller de l'avant ». Son successeur, Keir Starmer, n'a pas encore fait connaître sa position. Mais la pression va probablement s'accentuer lorsque les représentants de la Grande-Bretagne et de plusieurs de ses anciennes colonies se réuniront sur un pied d'égalité lors du sommet du Commonwealth le mois prochain.
Au Kenya, un officier de police a choisi de lutter contre la criminalité par des activités sportives. En 2020, il a lancé l'équipe de football de Matare afin d'occuper les jeunes. 4 ans plus tard, l'équipe est toujours aussi dynamique. Reportage de Joël Massibo, relaté par Thierry Kaoré.
Steve Omende, 30 ans, fait partie des forces de police depuis 8 ans et a travaillé pendant 4 ans dans la vallée du Matar, un quartier informel de la capitale kenyane, Nairobi, qui compte environ 500 000 habitants et où la criminalité est omniprésente.
Les jeunes d'ici n'ont pas beaucoup d'opportunités et sont donc facilement attirés par la criminalité. Je voulais leur montrer les différentes façons d'obtenir des opportunités et j'ai choisi le football parce que le football a été ma motivation.
Malgré l'absence de statistiques récentes, le personnel de sécurité et des habitants comme Austin Otieno affirment que l'initiative footballistique d'Omende, lancée il y a 4 ans, a eu un impact sur le comportement des jeunes, le taux de criminalité et les incidents de violence policière.
Nous avons constaté une baisse significative de la criminalité et des affrontements avec la police. La communauté se sent en sécurité et plus unie.
L'étudiant Gilbert Ojuka affirme que l'initiative a fait la différence.
Maintenant, je me concentre sur mes études et je rêve de devenir footballeur professionnel.
Grâce au programme de football, au moins 50 jeunes délinquants sont aujourd'hui des membres à part entière de la société. Des parents comme Irène Wakoli disent qu'ils ont maintenant des objectifs, qu'ils sont autodisciplinés et qu'ils comprennent la valeur du travail d'équipe.
Ce programme a changé notre vie. Mon fils est désormais un modèle dans notre communauté. Avant, je craignais de le perdre un jour dans une bagarre de rue ou une confrontation avec la police. Tout cela a changé.
ACLE, une organisation à but non lucratif qui suit les données sur les conflits et les manifestations dans le monde, a constaté qu'entre juillet et septembre 2023, il y a eu 176 décès liés à la violence politique impliquant la police. La plupart de ces incidents se sont produits dans le comté de Nairobi, qui a connu une forte augmentation des manifestations antigouvernementales au cours de cette période. C'est là que l'initiative d'Omende entre en jeu. Ses collègues policiers sont également motivés pour s'engager auprès des jeunes par le biais du sport. À Kangemi, un autre quartier informel de Nairobi, des policiers comme Johnson et Tal ont créé une équipe de football dans leur zone de compétence.
La tension entre la police et les jeunes était très forte au sein de la communauté. Trouver des moyens créatifs pour traiter avec les jeunes qui vivent des conditions économiques difficiles est le seul moyen d'instaurer la paix dans la communauté.
Omindé dit que l'initiative est utile à la communauté.
Pour ces garçons, le football est plus qu'un simple sport. C'est une bouée de sauvetage qui leur donne de l'espoir et qui façonne leur avenir.
C'est une véritable tradition dans la politique américaine. Tous les quatre ans, les candidats à la présidence se concentrent sur les swing states. Ces États peuvent faire basculer d'une élection, à l'autre et déterminent le vainqueur de la Maison-Blanche. Dilly Dico explique l'importance de ces swing states.
Les swing states, États pivots, sont essentiels pour remporter la Maison-Blanche en 2024. Ces États sont le théâtre de campagnes politiques les plus féroces et les plus coûteuses, et leurs électeurs exercent une influence considérable sur l'élection. Alors, comment cela fonctionne ? La plupart des États sont de manière prévisible, rouges ou bleus, républicains ou démocrates, mais dans les swing states, le résultat peut aller dans un sens ou dans l'autre. Un candidat a besoin de 270 votes sur les 538 du collège électoral pour remporter la présidence, en général par le biais d'élections au niveau de l'État où le gagnant remporte la majorité des suffrages. Cette année, l'Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Wisconsin détiennent les clés de la Maison-Blanche. À travers eux, 93 votes du collège électoral pourraient passer soit au rouge, soit au bleu. Les marges électorales de ces États sont minces en raison d'une répartition quasi équilibrée entre les électeurs républicains et démocrates. Les changements démographiques et la divergence d'opinion entre les zones urbaines et rurales rendent ces résultats imprévisibles. Des changements, même minimes, peuvent faire basculer l'ensemble d'un État et donner à Kamala Harris ou à Donald Trump l'avantage au sein du collège électoral. En 2016, Donald Trump a remporté la Pennsylvanie avec une marge de 0,7%, s'assurant ainsi 20 votes du collège électoral et la présidence. Quatre ans plus tard, Joe Biden a reconquis l'État avec une avance de 1,2%, ce qui l'a aidé à remporter la Maison-Blanche. La même année, Joe Biden a remporté la Géorgie avec une faible avance de 12 000 voix, faisant basculer l'État du rouge au bleu pour la première fois depuis Bill Clinton. Les swing states sont imprévisibles, mais une chose est sûre, ils auront une influence considérable en 2024. Dans ces États, chaque vote compte.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, www.voafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères.
VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel